Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien, tiendra bien une semaine de plus, hein. Bon, c'est vrai que bah justement, ce soir, on va faire un peu de prédiction. C'est le but du jeu, puisque justement, c'est l'émission des jeux écologiques. Donc ce soir, on a plein d'invités. Donc on a François Dulac du CEA qui va nous présenter le jeu sur le climat qui s'appelle
Climatic Tac. Bonsoir.
Voilà. On a Madame Quinn, administratrice de la fresque de la biodiversité, qui est un jeu, mais qui est surtout un mode de...
Un très bel outil de sensibilisation sur le vivant.
Voilà. Donc, et puis on a Brune Delaunay, qui elle aussi a un jeu, alors pas son jeu... d'enfant, mais maintenant que madame est étudiante et chercheuse à Lille...
Je ne suis plus étudiante. Hein, ça fait un peu
oui.
de temps que je ne suis plus étudiante.
Oui, c'est vrai. Ah bah que veux-tu. Donc, bah oui, c'est ma fille. Faut que je l'avoue, ce sera plus simple. On va éviter les cachotteries. Donc, Brume, alors tu es maintenant que tu es grande.
Bah, je joue.
Tu joues, voilà.
Et, c'est ça,
et tu joues à quoi, ma grande?
À l'échappée fraîche, un jeu qui sensibilise à la question de la surchauffe urbaine et de l'adaptation des villes à la chaleur.
Ah, un sujet dont on parlera, je crois, la semaine prochaine avec les candidats aux élections municipales. Alors, bon, bah, écoutez, et puis on va creuser le sujet rapidement, mais avant toute chose, naturellement, on a la bonne nouvelle de la semaine, Théo. Alors cette semaine, c'est quoi la bonne nouvelle?
Tout à fait. Première chronique en direct, d'ailleurs, ça se note quand même. Donc ma mission de ce soir, ça va être de vous donner le sourire, comme toujours, avec des bonnes nouvelles, parce que dans le monde anxiogène qui est le nôtre, ça fait toujours du bien. Et ce soir, on va commencer cette chronique avec un chiffre, 25 000. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous dire ce que c'est. Ce chiffre, c'est le nombre de tonnes de déchets plastiques interceptés ou récupérés par l'association Ocean Cleanup en 2025 dans les rivières ou les océans du monde entier. Alors ça paraît pas, mais c'est gigantesque à titre de comparaison. Jusqu'ici, l'association avait mis 6 ans depuis les premières opérations à grande échelle en 2019 pour récolter 20 000 tonnes. C'est-à-dire qu'en un an, elle a récolté plus qu'en 6 ans avant ça. C'est la concrétisation d'un développement important de l'association et de ses moyens, mais aussi de ses dispositifs. En effet, pour arriver à ce résultat, l'association s'est concentrée sur deux axes principaux. Le premier, c'est l'interception, c'est-à-dire intercepter les déchets plastiques dans les rivières avant qu'ils atteignent l'océan avec des barrages flottants. Et d'ailleurs, sur ce point, une bonne nouvelle dans notre malheur collectif, si je puis dire, c'est que 1% des rivières mondiales concentrent 80% des déchets plastiques rejetés dans l'océan. Ça représente à peu près 1000 rivières, on peut citer des grands fleuves, par exemple le Nil, le Gange, et ça permet à cette association, comme aux autres, de concentrer leurs efforts sur des points précis. De la même manière, pour les déchets qui sont déjà dans l'océan, l'association a aussi un programme de récupération des déchets, là encore à l'aide de barrages flottants. Alors à ce niveau-là, d'ailleurs, le travail est tout simplement titanesque, puisqu'on estime qu'il y aurait actuellement dans les océans 200 millions de tonnes de plastique. D'autant qu'il faut quand même y ajouter, pour nuancer un peu cette réussite, que ce sont chaque année 11 millions de tonnes de plastique supplémentaires qui rejoignent les océans. Ne serait-ce que pour la Méditerranée, on estime chaque année à 600 000 tonnes de déchets plastiques qui finissent à la mer. On est donc encore loin d'avoir des océans sans plastique, malheureusement, mais pour retourner sur une note un peu plus positive, à partir de cette année, l'association va lancer un nouveau programme qui s'appelle 30 villes, et comme son nom l'indique, l'objectif est de concentrer leurs efforts sur 30 villes considérées comme des sources de pollution plastique importantes en Asie et en Amérique. D'ailleurs, sur ce point, son objectif est particulièrement ambitieux puisque l'association prévoit avec ce programme de supprimer 90% de la pollution plastique vers les océans d'ici 2040. Alors aujourd'hui, cet objectif, il paraît presque irréel, hein, idyllique, mais pour rester dans le champ lexical de l'eau, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, comme on dit, et Ocean Cleanup est l'un de ces petits ruisseaux. Il en faudra beaucoup, beaucoup d'autres pour arriver à des résultats larges, mais c'est déjà un pas extrêmement important et encourageant vers des océans plus propres, et c'était notre bonne nouvelle du soir. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo, et on voit que t'as profité du direct pour faire un petit peu plus que les 2 minutes 30 habituelles, non? Bon, en tout cas, on poursuit, c'est vrai que le sujet est très important, et puis on sera amené à le creuser, je crois, au mois de juin, où on a prévu une émission spéciale plastique. Mais, en attendant, je vais vous faire les nouvelles de... Les nouvelles de Roquelaure, donc puisque maintenant on a vu que Madame la ministre bougeait, on a effectivement des nouvelles de la semaine. Alors la semaine dernière c'était effectivement un très bel agenda, il y avait beaucoup de choses. Cette semaine c'est la portion congrue. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe au ministère. On a ça ferait plaisir à un de nos invités, à Jason. Donc elle reçoit Teva Rochefriche, qui est le sénateur de la Polynésie française, qui est en charge d'un rapport de mission d'information sur la diplomatie climatique. Grand sujet qui nous tiendra à cœur prochainement. On a aussi un entretien avec la ministre déléguée auprès des armées, donc écologie et armées. Et puis, c'est vrai que cette semaine, c'était naturellement, Madame la ministre était mobilisée par le Salon de l'Agriculture, on se doute bien. D'ailleurs, elle devait voir cet après-midi le Sébastien Windsor, qui n'est pas le roi d'Angleterre, mais qui est le président de la Chambre d'Agriculture. Et puis, demain, ce sera entretien avec Stéphane Gallet, porte-parole de la Confédération Paysanne, pour rester dans le thème agricole. Mais c'est bien qu'effectivement, elle reçoive ce syndicat qui n'est pas fréquemment... pris comme interlocuteur, bon, c'est un bon point. Aussi, un entretien avec Stéphane Delorette, alors c'est le député de la Haute-Vienne, je ne sais même pas de quel parti il fait partie, mais donc je trouve un petit peu l'agenda un peu léger. Mais bon, ça nous laissera plus de temps à Ben pour faire sa chronique. Hein. Ben, si tu peux revenir... Donc Ben, on t'accueille en majesté, mais et puis après on passera avec nos invités sur les écolo-jeux, qui est un peu une nouvelle forme de concertation. Mais Ben, allez, si on peut rentrer dans le vif du sujet.
Il faut pouvoir...
Alors qu'as-tu trouvé cette semaine ? Comme information internationale à l'intérieur de Paris.
Ah ben d'abord, il faut que je vous parle de l'Agence internationale de l'énergie.
D'accord.
Vous savez qu'elle est basée à Paris et que c'est quand même l'une des émanations suite à la crise du pétrole en 73, pour ceux qui étaient là. Et c'est très intéressant de voir comment la Maison-Blanche considère l'Agence internationale de l'énergie. Et selon leur dernier, parce qu'il y a un rapport chaque année, et là, dans le dernier rapport, la Maison-Blanche considère quand même qu'on exagère complètement en étant à ce point, nous, Européens, des victimes de cette maladie du climat. Donc je voulais quand même vous le dire, parce que ça fait partie des scoops... Des scoops de la journée, mais c'est pas le seul. Celui que j'ai trouvé le plus intéressant, François, c'est notamment l'Observatoire international des médias sur l'environnement. Oui, parce qu'il y a un observatoire sur l'environnement. François, tu vas te croire que c'est quelque chose de très français et que je vais faire du cocorico, mais non, il y a un observatoire international sur les médias
français
concernant l'environnement. Pas du tout français, mais Colorado,
d'accord.
L'université du Colorado. Et ce qui est intéressant, bon, je vais te le dire en anglais si tu veux, c'est le Media and Climate Change Observatory of the Colorado University.
Oh, j'ai compris.
Ça fait quand même beaucoup mieux. Oui, hein, ça change tout.
J'ai quand même compris.
Ça fait sérieux et tout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, ça c'est né en novembre 2024. Et ça fonctionne en analysant à peu près 19 médias qui sont à la fois radio et télé.
Et ça vient de l'écologie, bien sûr.
Alors, attention, la présence du climat, de tout ce qui concerne le climat dans ces médias français, ça a reculé de 14%.
Ah, donc notre impression n'était pas fausse, quoi.
Notre impression n'est pas fausse du tout. Et alors en France ? Bon, alors vous allez me dire, oui, heureusement, il y a CNews, Europe 1 et quelques autres qui vraiment ont compris et Sud Radio, merci, et qui ont compris, bien sûr, jusqu'à quel point nous sommes victimes de cette maladie du climat. Mais, il y a aussi, dans le cadre notamment de tout ce qui est les radios généralistes, alors là, il y a quand même une grande exception et une antenne qui vraiment est au top niveau sur les questions d'environnement, c'est Radio France Internationale.
Ah.
Et ça, c'est...
Toi, t'as fait plaisir, puisque t'es un ancien de la boutique.
Je suis un ancien de la boutique, exactement. Mais j'ai aussi d'autres informations.
Bon, et tu veux en dire où ? Donc effectivement, grosso modo, il y a une érosion de la place du sujet dans les médias en général, les Français en particulier.
Absolument.
Et c'est même aperçu depuis le Colorado.
Et c'est même aperçu depuis Colorado. Et c'est intéressant de voir que la question climatique... n'est pas du tout, malgré...
Plus fait chaud, moins ils en parlent, quoi.
Malgré ta contribution à Radio Aligre, on
ah
peut
ouais,
quand
donc,
même considérer
donc on
n'a
pas
que...
réussi à changer ni le thermomètre, ni l'audimètre. Bon, mais, rien n'est perdu. Hein.
Mais j'ai encore d'autres informations pour vous, ouais. Notamment sur la question de l'alimentation.
Ah, allez, fais vite.
Alors là, le premier scoop, c'est que la SSA... Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la Sécurité sociale de l'alimentation, oui. SSA. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, a le vent en poupe, même si notre ami David Belliard considère que c'est assez compliqué à mettre en place.
Oui, mais on l'expliquera la semaine prochaine.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que le SSA a même reçu l'aval, le feu vert du Parlement européen. Et ça, c'est quand même...
Donc c'est un sujet dont on va pouvoir parler et qui va devenir... Mais est-ce que c'est aussi une reconnaissance un petit peu d'un seuil minimum de fourniture alimentaire, de budget alimentaire qu'on octroie à l'ensemble des citoyens? C'est ça, cette idée
C'est ça l'idée. C'est qu'après tout, dans la mesure où, d'un point de vue légal, on est supposé quand même faire le maximum... pour que les êtres humains aient un droit à l'alimentation, il faut que ce droit soit vraiment de plus
effectif.
En plus. Et c'est une...
Bon, bah, c'est à creuser ça, donc on en reparlera.
Alors, pour le creuser, j'y ai pensé, j'ai fait mes devoirs, j'ai essayé de voir jusqu'à quel point est-ce que la question de l'alimentation est devenue quelque chose de fondamental dans le cadre... de l'éducation.
Et alors ?
Et c'est pour ça que je suis là.
D'accord, donc tu reviens du salon de l'agriculture, toi aussi.
Alors, 9% des Français disent avoir appris à bien manger grâce à l'école.
Ah, 9, combien tu dis ?
9%.
Ah, c'est pas beaucoup.
80% estiment que l'école devrait jouer un rôle clé. Mm-hmm. Donc sur les 9, on dirait qu'il y a une marge. Donc il faudrait vraiment faire quelque chose. Et effectivement, il y en a 87% des Français qui soutiennent l'idée d'un enseignement obligatoire.
Eh bien.
Et je vous laisse méditer sur...
Allez, bah écoute, on va se prendre une petite pause musicale pour pouvoir bien méditer, digérer toute cette information. Merci beaucoup, Ben.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, merci Armand. Alors, vas-y, désannonce-nous cette musique qui nous a fait danser pendant 2 minutes.
C'est Raled avec DJ Snake.
Ah, ok, bah écoute, c'est parfait. Donc,
on enchaîne.
Oui, on enchaîne parce qu'effectivement, ça nous a fait une pause musicale un peu distrayante. Mais, non, chers auditeurs, imaginez-vous qu'on débattait sur la suite de ces sujets. Et François, tu réagissais. Donc, tu disais, oui, Ben, on parle de moins en moins de climat, mais qu'est-ce qui t'avait fâché
Moi, je suis assez contrarié par le fait que, finalement, les partis politiques, maintenant, décrédibilisent les scientifiques sur ces questions climatiques et environnementales en prétendant que c'est des gens qui œuvrent pour des intérêts personnels ou de gauche. Et donc, ça fait beaucoup de mal, je trouve, à la parole des scientifiques. Et ça contribue pour les gens qui n'ont pas trop d'informations, finalement, à faire qu'on met toutes ces questions-là de côté, alors qu'elles ont une importance de plus en plus capitale dans notre quotidien.
Alors, expliquer ça? Parce que, je dirais, les preuves du bouleversement climatique sont de plus en plus évidentes. On les vit pratiquement quotidiennement. C'est vrai qu'on pouvait être climato-sceptique au XXe siècle. Je veux bien encore l'admettre, mais aujourd'hui c'est tellement évident. Plus ils dénoncent, quoi. C'est hallucinant, quoi.
Les années 1960, on parlait encore des risques de refroidissement de la planète.
Oui, mais ça c'est une autre histoire, Ben.
Il n'y a plus vraiment quand même de remise en cause du réchauffement climatique, hein, ce qui est un peu utilisé, c'est le fait que c'est pas forcément la responsabilité de l'homme qui traîne encore. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est cette espèce de déni, enfin, ou en tout cas d'optimisme sur le fait que, de toute façon, il y a toujours eu des changements climatiques et on trouvera des solutions.
Et on aura la géo-ingénierie qui va pouvoir nous...
Oui, j'en suis même pas si sûr que ça, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une forme de déni, et surtout, l'argument, c'est, de toute façon, crever pour crever, autant foncer, quoi. Il y a un peu de ce comportement presque suicidaire chez certains. Mais est-ce qu'il faudrait pas trouver des moyens de poser les questions? Alors peut-être que c'est justement le but du jeu, de vos différents jeux. Est-ce qu'on n'est pas, il n'y a pas un problème d'éducation à avoir et à généraliser et faire en sorte que ça devienne pratiquement, ça a déjà commencé, à devenir des sujets de conversation presque de familiaux, quoi, ou de... vos différents jeux ont un peu fonction de ça, de pouvoir rentrer dans le débat d'une manière très libre. Alors, peut-être que, François, tu vas maintenant, après nous avoir dit ce qui te contrariait dans la vie, dans l'actualité, nous dire...
Jouons.
Comment fonctionne ton jeu, depuis quand il existe, et est-ce qu'il permet justement d'ouvrir ces conversations?
Alors, c'est parti, si vous voulez, c'est justement, on est parti de ce constat-là, il y a maintenant presque une dizaine d'années, qu'on a beau répéter un peu la même chose depuis 30 ans sur le climat, sur ce qui est en train de nous arriver, il ne se passe pas grand-chose au niveau des décisions politiques et économiques. Donc l'idée avait été à l'époque de développer un jeu de sensibilisation au changement climatique et à sa cause, bien sûr, humaine, et à ses impacts. On avait voulu s'adresser aux jeunes et en particulier aux collèges. Et donc, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes, pratiquement, qui a travaillé assez régulièrement, toutes les semaines, de façon à sortir un prototype de jeu.
Alors, ces personnes, dis-nous, parce que, toi, t'es...
On veut des noms.
Voilà, c'est plutôt pas des noms, mais surtout des fonctions. Parce que, je le dis pour nos auditeurs, toi, tu es au CEA, c'était climatologue. Alors, raconte-nous dans un peu
ton parcours,
okay, donc
ta fiche d'identité, quoi.
Le sens de ta vie.
Le milieu qui a travaillé là-dessus, c'est un milieu scientifique. On est, donc moi, j'appartiens au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Je ne suis pas climatologue, je travaille plutôt sur des problèmes de transport, de la pollution atmosphérique dans l'atmosphère. Par contre, les gens qui ont vraiment développé le proto étaient des gens qui travaillaient sur le climat ou des questions très proches. Et le transport de la pollution, il a aussi à voir avec les questions climatiques. Et puis, on a associé aussi une association de médiation scientifique, qui nous a apporté l'idée, en fait, de développer un jeu sur le principe de pandémie, qui est un jeu de plateau coopératif. C'était important pour nous d'avoir un jeu coopératif sur ces questions climatiques. Et donc, on va jouer sur le 21e siècle. Et au fur et à mesure où le temps avance, on subit des aléas climatiques. Et l'accumulation des aléas va rendre les villes du monde inhabitables. Voilà, on joue avec une map monde, une trentaine de villes qui ont chacune des vulnérabilités différentes. Et chacun son tour, on a un potentiel d'action en main avec des cartes et on va être amené à discuter d'une stratégie pour essayer de préserver l'habitabilité des villes. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités en main. Et puis, on a aussi une deuxième question à gérer, c'est les émissions de CO2. Vous savez que c'est le principal gaz à effet de serre. Et en fait, à chaque tour de jeu, on va générer des émissions de CO2 qui, si on ne les supprime pas pendant le tour, avec nos actions, vont faire monter la concentration dans l'air. Et du coup, on va atteindre éventuellement des niveaux de réchauffement qui vont non pas affecter un certain nombre de villes, mais l'essentiel de la planète. Ça déclenche éventuellement des actions sur la répétition des événements extrêmes, sur des événements à seuil qui vont se produire à partir d'un certain niveau de réchauffement. Mais surtout, si on ne respecte pas ce seuil de concentration en CO2 à la fin de la partie, on considérera qu'on aura aussi perdu, pas simplement parce qu'on aura perdu trop de villes. Voilà, donc c'est un jeu, finalement, moi je suis rentré comme le premier utilisateur accompagnateur de ce prototype. J'ai vu que ça marchait très bien avec les étudiants, les lycéens, les adultes, les associations. Et donc finalement, aujourd'hui, on a une version commerciale qui est vendue par BioViva, donc un éditeur de jeux bien connu des jeunes, qui fait des jeux de cartes qui s'appellent les Défis Nature.
Et vous pouvez le trouver très facilement sur Internet.
Voilà, il a été en tête de gondole au moment de sa sortie. Il s'est pas mal vendu à Noël. Et puis, on continue à l'animer assez régulièrement.
Alors moi, ce que j'avais trouvé intéressant, parce que tu nous l'avais présenté à l'Académie du Climat, c'est qu'on ne joue pas, ce n'est pas un jeu où on joue personnellement. C'est de facto, on est en collaboration, et c'est peut-être important de le préciser, c'est des jeux où on gagne tous ensemble, voilà. Où on perd tous ensemble.
C'est un jeu coopératif, en fait.
Et de ce point de vue-là, c'est un petit peu notre destin, quoi.
Moi, j'ai eu de la peine à le comprendre. Je dois vous dire.
Mais Ben,
il faut pratiquer.
Voilà.
Alors, si vous voulez, on a mis beaucoup de règles qui représentent les processus qui se passent dans la réalité. Donc, c'est un petit peu compliqué. Au départ, il faut passer 10-15 minutes à expliquer les règles. Après, une fois que la mécanique est lancée, c'est assez simple, c'est répétitif. Mais on a voulu rester au plus près de la réalité. Donc, on n'a rien inventé là-dedans. Tout ce qu'il y a dans les cartes actions, dans les aléas, dans les catastrophes qui arrivent, ce sont des choses du vécu, des choses qui se sont déjà passées. À tel point que, finalement, le CNRS, qui a créé une médaille de la médiation scientifique pour reconnaître un petit peu ce rôle des chercheurs, nous a attribué la première médaille de la médiation scientifique collectivement pour ce projet-là.
Bravo.
Et donc, il s'appelle comment et on peut le trouver où ?
Climatic-Tac, on peut le trouver
et pas Tic-Tac Climat.
Chez les marchands de jeux, dans certaines librairies, dans les Biocop qui vendent des jeux BioViva. On peut le trouver par Internet aussi, mais bon, je ne recommande pas de faire venir des livreurs à domicile payés au lance-pierre.
Ah oui, ça fait monter
les émissions de carbone. Et puis surtout, c'est un problème social de payer des gens au lance-pierre pour faire des horaires, y compris le dimanche. Maintenant, on peut se faire livrer le dimanche.
Et on ne citera pas la marque à laquelle, la compagnie à laquelle tu fais allusion.
Mais bon, alors, on va peut-être pas une transition logique, on va peut-être voir se retourner vers Brune, puisque toi, t'es plutôt dans les effets, non pas planétaires, mais t'es dans le local, si j'ai bien compris.
C'est ça, on est sur le micro-local même, puisqu'on notre jeu, il part de l'étude d'un lieu précis, donc ça peut être par exemple une place publique, une cour d'école, un îlot urbain, mais ouais, vraiment, on est sur le micro-local et pas du tout sur le global. On est un peu parti du même
constat.
Il y avait aussi ce jeu, il s'intègre aussi dans un projet de recherche avec différents laboratoires de recherche de la région Hauts-de-France. Et l'idée, c'était aussi de valoriser les résultats de ce projet de recherche d'une manière peut-être un peu différente auprès du grand public.
Mais c'est ludique.
Oui, c'est ludique. Justement, c'était un des points qu'on voulait. On voulait faire un jeu sérieux, mais
ludique.
Mais ludique, c'est ça. Un jeu où on apprend, mais où il y a un objectif de jeu. On peut gagner et perdre.
Ah, on peut gagner et perdre. Et on joue tout seul ou on joue tous ensemble ?
tous ensemble. Également, on a pris le même parti pris. C'est aussi un jeu collaboratif. Et c'est un jeu qui se passe sur une année. On prend une année scolaire parce qu'au départ, on l'avait développé avec un collège, avec des collèges. Mais en fait, ça s'applique pour les collectivités également.
Alors, puisque... Raconte-nous dans un jeu qui dure une année.
Oui. En fait, sur une année, on doit d'abord comprendre.
C'est un cahier de l'Avent qui dure un an, quoi.
On doit d'abord comprendre certains phénomènes et ensuite jouer tous les mois une action. Mais bien sûr, on ne se retrouve pas une fois par mois dans la vraie vie. C'est le jeu qui l'échelle du jeu qui dure un an.
Ah, mais on peut...
On joue en une heure, c'est beaucoup.
Ah, oui,
on peut jouer tout le temps. Il n'y a pas de problème.
Ça n'est pas que l'été. Donc en fait, le principe, c'est de travailler sur un lieu. Donc par exemple, on va travailler sur une place publique. Et dans un premier temps, on va faire le constat que, effectivement, sur cette place, l'aménagement de cette place contribue à la surchauffe urbaine de ce lieu, donc en été, parce qu'en hiver on est un peu moins, on ressent moins cet inconfort thermique, ce phénomène. Et donc dans un premier temps, donc au mois de septembre, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic, parce que on est un laboratoire de géographie d'urbanisme, donc on fait des diagnostics. Et
donc vous prenez la température sur...
Voilà, c'est un peu ça. Et donc on essaye, grâce à des mécanismes, les mécanismes qui induisent la surchauffe urbaine, de définir à quel point l'espace est sujet à la surchauffe urbaine. Et ça fait monter notre thermoscore. Donc c'est l'indicateur du jeu, le thermoscore. Et dans un second temps, donc à partir du mois d'octobre, tous les mois, on joue une solution... que les joueurs auront
municipal, dans... quoi, d'aménagement.
Voilà, c'est ça. En fait, on
donc vous mettez dans la peau d'un service urbain.
C'est ça. On se met dans la peau d'un conseil municipal, par exemple. Et donc, par exemple, ici, c'est planter des arbres. Donc, ça semble bateau, mais c'est quand même le meilleur moyen de rafraîchir les villes. Et ça, en plus, au dos, on voit aussi tous les co-bénéfices que ça peut avoir sur la biodiversité, sur la santé humaine. En fonction, bien sûr, du choix des essences, de la manière dont on plante, bien sûr. Et donc, chaque solution a un impact sur le thermoscore, permet de baisser le thermoscore.
Allegre FM 93.1.
Et l'objectif étant d'arriver à un score le plus bas possible au moment où la vague de chaleur arrive. Donc la vague de chaleur, elle est au départ sur le mois de mai.
C'est joli le mot vague de chaleur. C'est vrai.
C'est moins joli quand elle nous arrive dans la figure, mais le mot est plutôt joli. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir atteint le score le bas possible au moment où la vague de chaleur arrive.
L'inondation.
Alors non, c'est pas une inondation, c'est vraiment une... Vous pourrez dire canicule, mais c'est pas exactement la même chose. Mais pour ça, alors on n'emploie pas le terme de vague de chaleur.
Moi, j'aurais une question, c'est jusqu'à quel point est-ce que votre jeu là, il est complémentaire de ce jeu qui est davantage branché sur la map monde. Jusqu'à quel point est-ce que on peut faire l'association entre le local et le global?
Il faut toujours.
C'est facile.
Oui, c'est
pour
ça.
Moi, c'est facile. La map monde, elle représente 30 villes. Et dans les actions qu'on a, on va agir en général sur une ville ou quelques villes. Mm. Et donc, bien sûr, il y a des actions qui peuvent être globales dans le jeu Climatic Tac. Mais en général, on a des actions qui s'appliquent à des endroits particuliers en fonction des vulnérabilités. La végétalisation des villes, ça fait partie des solutions. Si souvent ça pose des problèmes, parce que planter des arbres là où il y a des réseaux enterrés, c'est pas toujours facile. Hein.
Justement, on a une carte à Léa qui parle des problèmes de canalisation sous la place. Voilà, mais oui, effectivement, le lien entre global et local...
Oui, c'est pas qu'il y a qu'un faucon, quoi.
Bien sûr. Donc, effectivement, il y a ces solutions à jouer, mais on a un budget et aussi il y a des événements qui peuvent arriver.
Contrarier les actions.
Contrarier ou parfois c'est plutôt positif. L'ADEME, par exemple, est parfois généreuse. Voilà. Donc, au moment de la vague de chaleur, on lance un dé pour connaître l'intensité de la vague de chaleur, puisqu'on voulait ajouter un petit peu d'aléas, puisque le climat n'est pas
tracé tout
de suite. Exactement.
Pas régulier,
donc, c'est.
Alors là, j'ai une petite question sur ce produit. Mm-hmm. Ça vous concerne tous. C'est jusqu'à quel point est-ce que vous arrivez à promouvoir votre produit? Quel est le meilleur? Est-ce que vous avez l'impression que, à part ici, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où c'est vraiment popularisé et où vous pouvez effectivement...
Est-ce qu'il y a des mamies qui l'achètent pour leurs petits-enfants ?
Par exemple.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Bah, à part la tienne.
C'est un jeu qui a été commercialisé pour les familles, hein, au départ, par BioViva. Donc, y a beaucoup de familles qui l'ont acheté. Après, bon, au bout de 4 ans, hein, je ne sais pas si vous savez, mais la France, c'est le pays qui, au monde qui produit le plus de jeux. Donc, les rayons changent très vite. Donc, le jeu n'est plus dans les rayons. Souvent, il faut le faire commander. Ce qui marche beaucoup, c'est le bouche-à-oreille. Et puis, on fait aussi régulièrement des interventions... Dans les milieux enseignants, dans les colloques scientifiques, hein, même. Je suis allé par exemple sur un colloque de Labo 1.5, qui est le groupe de recherche qui cherche à décarboner la recherche. Et tous les ans, il y a un colloque, là, depuis 3 ans maintenant, sur l'enseignement de la transition dans l'enseignement supérieur. Et donc, je suis allé présenter ce jeu-là. J'ai fait tester par une quarantaine de personnes. Et puis, j'ai des retours maintenant qu'il y a des gens qui l'ont utilisé auprès de centaines d'étudiants dans leur fac. Voilà, donc beaucoup de bouche à oreille et puis un peu de rentre-dedans dans des événements auprès des associations, des milieux d'enseignants.
Oui, donc, il faut un peu pousser, quoi, ça ne se fait pas non plus tout seul, quoi.
Ben oui, bien sûr, hein, c'est comme tout, quand c'est sur un placard et que ça ne bouge pas, ça n'attire pas l'attention.
Alors Brume, on va le trouver dans le commerce?
Alors nous,
ton
on n'est pas à ce stade-là, c'est un bébé tout jeune encore. On l'a d'ailleurs pas, enfin on est en train de faire en sorte qu'il puisse être protégé, donc on ne va pas trop diffuser non plus.
Pourquoi? Oui, il y a un problème de copyright?
Oui, c'est ça, parce qu'il y a la production de l'esprit, et donc il faut protéger certaines informations pour pas que non plus le jeu puisse être réutilisé n'importe comment, on va dire.
Et puis faire fortune avec ça et pas vous, quoi.
Après, nous, on est l'université de Lille, donc on a des... On est, voilà.
Bon, vous êtes condamné à rester pauvre, quoi.
Pas forcément, mais c'est en train d'être... voilà, voilà. C'est en cours.
Est-ce qu'il y a des grands sponsors derrière?
Non, là, c'est vraiment un outil de médiation, on va dire, de médiation scientifique. On intervient au sein de collèges, de lycées, on a fait la fête de la science, on intervient aussi auprès de collectivités. Mais comme c'est dans le cadre de nos fonctions et dans le cadre d'un projet de recherche, ça fait partie, en fait, de nos missions actuellement. La question se posera surtout quand le projet de recherche prendra fin et qu'on voudra continuer de faire exister ce jeu. Donc là, nous, on est en train de réfléchir à peut-être la possibilité d'avoir une version imprimable qui puisse être accessible sur différents sites.
Support,
voilà.
Et téléchargeable, pratiquement.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est un jeu, ce que je n'ai pas précisé avant, mais l'idée, c'est qu'il puisse être modifié, personnalisé. Donc le fond qu'on étudie, ça peut être... Par exemple, une place ou un quartier.
Mais est-ce qu'il peut être, par exemple, je suis le village, allez, on va dire Bellomère en Eure-et-Loire. Mm-hmm. Est-ce que je peux faire un jeu de Bellomère et le réchauffement climatique avec vous?
Eh ben, ça dépend de la densité de ce village, ça dépend aussi de la manière dont est aménagé le village. Si c'est un village extrêmement artificialisé, dans ce cas-là, oui, ça peut être étudié. On m'a posé la question pour, par exemple, un lycée qui était en milieu des champs et de la forêt, avec une cour végétalisée. Là, j'ai malheureusement dû expliquer que le jeu ne pouvait pas trop s'appliquer sur leur territoire, puisque... Finalement, la surchauffe urbaine, ce n'est pas forcément un phénomène qui pourrait étudier.
Donc la surchauffe urbaine n'est pas non plus pour les 36 000 communes et les...
Non, voilà.
Je ne sais pas combien de villes.
Mais il n'y a pas que les villes. Enfin, on peut quand même regarder les centres-bourgs. Ça peut être... en fait, tout dépend de...
Mais est-ce que ça pourrait être la place d'Aligre, par exemple, puisque...
La place d'Aligre, c'est-à-dire le parvis devant?
Non, pas ici. Non, mais bon, puisque la radio Aligre doit son nom à une célèbre place parisienne, dans le 12e, où il y a un marché...
Mythique.
Et puis il y a aussi une place où il n'y a pas beaucoup d'armes d'ailleurs, où il y en a peut-être eu plus. Mm-hmm. Mais donc on pourrait localiser.
Totalement. Le jeu s'adapte. Totalement.
D'accord. Mais ça pourrait être intéressant, y compris en termes de business et de merchandising. Mm-hmm. Mais bon, on en reparlera gros sous plus tard.
En fait, le principe de la surchauffe, hein, c'est que tu auras remplacé la végétation par du minéral.
Exactement.
Donc dans tous les endroits où tu as bétonné ou bitumé, tu as potentiellement ce problème-là.
Donc c'est un principe général, quoi. C'est une maladie générale de nos villes.
Exactement.
Et puis c'est une maladie de la fin du XXe siècle. C'est pas, ce phénomène, on ne devait pas l'avoir il y a un siècle, quoi.
Moins. Mais pas, à partir du moment où on densifie, c'est... on augmente le phénomène de surchauffe urbaine, mais pas du tout de la même manière, enfin pas dans la même mesure. Donc effectivement, non, c'était
et
pas...
Et vous sollicitez aussi les architectes,
non? Ça peut être... j'ai justement eu une demande d'architecte pour... Je ne sais pas encore abouti, mais l'idée serait aussi d'intervenir auprès d'architectes.
C'est vrai qu'ils ont été un petit peu longs à la comprenette, les architectes, mais bon, je vais me fâcher encore avec eux. Mais c'est vrai qu'on a... Il y a 40 ans, quand on parlait d'architecture en ville, c'était minéralisation.
Oui, mais ça a changé.
Oui, tout à fait. Encore heureux. C'est heureux. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Non, je suis désolé. Je me rappelle quand j'étais jeune. Mais quand on allait regarder la Défense, il n'y a pas un mètre carré de terre. C'était l'objectif, c'était de mettre du marbre ou du granit partout, quoi. Et bon,
ta vision de la modernité, de
oui c'était conceptuel, mais je me faisais traiter de plouc. Ce qui était probablement vrai, mais quand même, on n'avait pas tout à fait tort, nous, les paysans de la ville.
Mais ça a fortement changé dans la manière d'enseigner
l'architecture. Bon, tant mieux, c'est génial.
Et nous, on a été sollicités, en fait, par des cabinets d'études d'urbanistes, donc qui travaillent pour les collectivités locales, et notamment en Occitanie, où, vous savez, dans les Pyrénées-Orientales, il y a des très gros problèmes d'accès à l'eau. Et en fait, ces gens-là essayent de sensibiliser les services techniques et les collectivités locales. Et donc, grâce à eux, on a pu avoir accès, faire des démonstrations, discuter, des mini-conférences à des services techniques et à des élus. Et ça, voilà, ça montre que dans certains coins, ça bouge. Mais en général, il faut avoir été confronté à des problèmes sérieux pour commencer à penser à se préoccuper du problème.
D'accord. Alors, Queen, vous êtes... je dirais un petit peu de l'autre côté de la barrière, puisque vous vous occupez de biodiversité. C'est donc là, vous n'êtes pas confronté à la minéralisation. Alors, c'est quoi la fresque de la biodiversité?
Alors, si, parce qu'en fait, on fait le lien entre Brune et François, puisque la biodiversité, c'est le meilleur allié dans la lutte contre le changement climatique. Or, c'est aussi la première victime du réchauffement. Et la biodiversité pourvoit notamment des solutions fondées sur la nature ou le biomimétisme, qui participent à l'adaptation des territoires en général. Et des villes en particulier. La fresque de la biodiversité. Alors, la fresque de la biodiversité, nous, on est une asso, une petite asso. On va fêter nos 5 ans cette année, au mois de juin. On est une petite asso, mais on grandit vite. On est né dans la foulée d'une grande sœur que tout le monde connaît un peu mieux, qui s'appelle la fresque du climat. Donc, on s'est beaucoup inspiré de cette fresque créée par Cédric Riegenbach. Et donc, on a un couple... Un petit groupe d'auteurs, et je les cite parce que je leur suis très reconnaissante d'avoir créé ce bel outil pédagogique. Donc c'est Géraldine Geoffrey-Vullier, Charles Sirot et puis le cabinet de loi de développement durable. Donc qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils considéraient que la biodiversité, c'était le parent pauvre, puisqu'à l'époque, déjà, on parlait peu du climat et encore moins de la biodiversité. Aujourd'hui, on parle un peu plus du climat, mais toujours peu de la biodiversité. Absolument. Donc l'idée, c'était d'attirer l'attention sur le vivant en général, et faire le point, le lien avec votre chronique de tout à l'heure, santé, alimentation, c'est la biodiversité. Donc notre association, l'idée, c'est de rendre accessible quelque chose qui peut paraître complexe, la biodiversité, un mot, et de rendre ce sujet, et notamment le rapport, parce que comme la fresque du climat est basée sur les rapports du GIEC, la fresque de la biodiversité est basée sur les rapports de l'IPBES, qui est une organisation qui publie tous les 5-6 ans un rapport sur l'état de la biodiversité.
Oui, un peu, pour faire simple, le GIEC de la biodiversité. Quoi.
Pour faire simple, simple.
Veut dire, l'acronyme, c'est...
L'IPBES, c'est, on va dire, le panel international des experts de la biodiversité. D'accord. Je ne vais pas me lancer dans l'anglais, parce que vous avez un accent fabuleux, Ben. Je ne vais pas essayer d'imiter ça. Et juste quelques mots de présentation de notre petit asso, parce qu'on est vraiment ravis que vous nous ayez invités. On est peu visibles, mais on est aujourd'hui 5000 animateurs. On a sensibilisé plus de 100 000 personnes dans le monde. On est traduit en 35 langues, donc les 27 langues de l'Union européenne. Et on est présent dans 45 pays. Voilà. Et notamment, bien, il y a quelques semaines, on était à Manchester pour la grande réunion plénière de l'IPBES, dont est sorti le rapport biodiversité.
Le sixième, si je ne m'abuse.
Et nous sommes du coup observateurs au sein
Il y a à peine plus d'une semaine, vous organisiez une journée très intéressante, justement sur comment mieux parler de la biodiversité. On fait signe qu'on va peut-être faire une petite pause musicale. Oui. Et puis
Parce que la biodiversité se fête.
Voilà, et ensuite on reviendra reviendra dans le détail sur ce sujet-là. Mais oui, effectivement, la biodiversité, c'est un sujet dont on aime beaucoup parler dans les arènes de l'écologie. Allez, musique!
Jusque ton appartement, yeah. Premier date, premier rendez-vous. Baby, ton parfum me rendait fou. J'ai perdu mes moyens, j'étais dans le flou. J'ai vendu mon cœur quand j'étais dans le fou. Entre nous c'est sérieux. Depuis mes sentiments vont désobéir.
Que ferais-tu si t'avais le choix? Je commencerais.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie et Armand va nous préciser, désannoncer cette pause musicale.
C'est Enchanté, Julia, avec Prince Wally.
Ah, on a adoré. Mais on a parlé aussi de biodiversité, parce que naturellement, pendant les pauses musicales, chers auditeurs, vous devriez être là, on réallume souvent le feu des discussions. Alors donc, Queen, on était justement sur la fresque de la biodiversité. Alors comment ça marche?
Alors, on va parler de temps, donc c'est un atelier pareil comme pour vos jeux à François et à Brune. Donc c'est à la fois un atelier participatif d'intelligence collective qui est à la fois structurant et structuré, ce qui est un cadre. Donc c'est un atelier en 3 heures.
Ah, quand même.
On utilise les données du rapport de l'IPBES, donc on le met à jour évidemment à chaque fois que sort un nouveau rapport. Donc vous avez à peu près un tiers du jeu, on va jouer avec des cartes.
D'accord.
Et ensuite, un autre tiers du jeu, on va jouer sur la créativité et les émotions, et enfin sur une partie action. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend?
Et ça se fait à combien de personnes
Alors, on va dire qu'en moyenne, une table de jeu, c'est entre 8 et 10 participants. D'accord. Pour le confort des participants, comme de la facilitatrice, de l'animateur.
C'est un peu à l'instar de la fresque du climat. Alors.
Ah, mais tout à fait.
Ils ont copié.
Non, mais on s'est inspiré.
J'essaie de montrer que je connais le premier, en tout cas.
Ouais, c'est bien, bravo. Mais
et qu'est-ce qu'on y apprend?
Mais alors, c'est une fresque d'ailleurs qui est pas au mur, c'est ça moi qui m'a toujours gêné.
Elle peut. Ouais, ouais. On peut l'afficher au mur. D'ailleurs, quand on est sur des salons ou des expositions, on a une bâche qui se tient de manière verticale. Et parfois, on s'amuse même à faire redessiner par nos visiteurs les cartes du jeu. Et on a des résultats souvent magnifiques. La dernièrement au Salon des Mers. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend pendant cette fresque? On redécouvre les trois composantes de la biodiversité.
Qui sont
La biodiversité des espèces, des gènes et des écosystèmes. C'est bon, les auteurs ne m'en voudront pas, je connais par cœur. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Ce qu'elles nous apportent dans ce qu'on appelle les services écosystémiques, et on les décrit pendant l'atelier, donc je ne déflore pas le sujet pour laisser les futurs participants découvrir l'atelier et comprendre, apprendre avec nous. À partir de là, on voit comment les sociétés humaines ont utilisé ce que la nature donne, crée de manière gratuite et spontanée, mais pas de manière infinie, en tout cas il faut lui laisser un temps de régénération, mais comment les sociétés humaines ont utilisé ce qu'on trouvait dans la nature pour se créer de manière à la fois matériel, hein, nos maisons, etc., s'alimenter, se soigner, mais également
Donc on est quand même sur les usages de la biodiversité.
On est sur les usages de la biodiversité, et puis évidemment...
Ça va jusqu'au biomimétisme?
Alors, on peut en parler, alors ça ne fait pas partie du jeu, mais effectivement, ça peut être abordé dans les solutions qui seront évoquées par les participants. Mais ce qui est intéressant, important, c'est de voir comment, en fait, tout ce qui font les sociétés humaines aujourd'hui sont fondées sur le vivant en général, et le rapport de l'IBES, Business Biodiversité, le rappelle, et comment nos activités, alors qu'elles reposent entièrement sur le vivant, dégradent le vivant de manière parfaitement irréversible.
On a eu un peu tendance à l'oublier qu'on était biodiversité dépendant à bien des sujets.
On fait partie du vivant.
On fait partie du vivant.
Il y a plus de bactéries dans notre intestin que d'habitants sur Terre.
Ah,
ça c'est une belle formule. Et c'est vrai.
Bon, ça ne va pas nous couper l'appétit.
Ce qui est important de parler de la biodiversité, c'est, pour reprendre Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. On parlait pendant la pause de la défense, en fait, le vivant aujourd'hui, on l'étouffe. On l'étouffe parce qu'il faut planter des graines, parce qu'il faut faire des champs pour nourrir plus, parce qu'il faut construire beaucoup plus. Mais on oublie que la biodiversité, elle est là, mais on l'étouffe. Et c'est aussi l'un des enjeux principaux pour notre association et notre atelier en particulier, c'est de rendre cette évidence.
Alors, comment marche votre association? Comment elle marche? C'est-à-dire, comment est-ce que vous arrivez à fonctionner, à vous faire connaître, à vous rémunérer éventuellement?
Alors, l'association doit beaucoup à sa communauté d'animateurs et d'animatrices. Certains animent de manière bénévole, d'autres animent de manière professionnelle et gagnent leur vie et on en est ravis pour eux. Simplement, on est une association bientôt d'intérêt général, donc on dépend aussi des subventions. Et les subventions, c'est un gros problème pour le secteur associatif en règle générale. On a la chance d'avoir des institutions qui nous soutiennent régulièrement, comme l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui a été l'un des premiers soutiens dans la création de l'atelier avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Mais nous ne sommes pas, on est soumis aux subventions. En revanche, outre notre communauté qui est vraiment extrêmement active et loyale, on fait aussi le bouche à oreille, comme disait François Marche, puisque la fresque de la biodiversité est notamment inclue dans le programme de formation des hauts fonctionnaires, donc qui était une commande du président. Et donc, c'est 25 000 hauts fonctionnaires et plus de 3,5 millions d'agents publics de l'État qui vont suivre une formation dont la fresque de la biodiversité fait partie du programme. Et évidemment, on intervient aussi, comme vous, dans les écoles. Donc, on a des formats juniors, on a des formats adultes et des formats juniors pour aller dans les écoles. On le joue dans les EHPAD, on le joue dans les maisons d'arrêt. On le joue au coin des rues, peut-être à l'ombre d'un arbre, j'espère, avec ton jeu, Brune. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous.
Et les prochains rendez-vous pour la fresque de la biodiversité, du moins sur Paris, est-ce qu'il y a des séances
de... Oui, là, on est prêt à vous faire de la pub. Queen, il faut venir.
Écoutez, on a, pareil, c'est nos animateurs qui, dans tous les départements de France
ça fonctionne un peu comme les réunions tupperware de ma mère quand j'étais gamin. Quoi.
Alors, je ne sais pas, moi, j'en ai pas connu. Ma mère n'en faisait pas, mais je suis sûre qu'il y avait une bonne ambiance. En tout cas, ce qui est important, c'est que même si l'on parle d'un sujet complexe et dont les conséquences aujourd'hui, l'État aujourd'hui peut faire peur, mais on essaye toujours, via nos animateurs, d'avoir une ambiance conviviale. L'idée, c'est de ne pas faire peur, c'est de ne pas culpabiliser ou de ne pas stigmatiser, ni de faire des donneurs de leçons, mais d'apporter une connaissance scientifique la plus accessible possible.
Alors donc, effectivement, ce qui vous réunit, c'est aussi cette volonté de partager...
Convivialité.
Oui, peut-être la convivialité, mais c'est effectivement de partager des savoirs par le jeu. C'est assez nouveau, ça, c'était, ça existait. Du moins, dans nos civilisations, on avait un peu tendance à penser que le savoir, c'est par l'école.
Moi, historiquement, le jeu de loi, c'était pour enseigner au peuple.
Oui, mais tu as fait beaucoup de jeux de loi. Hein. Tu as fait beaucoup de jeux de loi à l'école, en cours de maths hein.
Mais pour répondre à ton point, la fresque de la biodiversité, comme beaucoup d'autres fresques, hein, d'ailleurs on n'est pas les seuls, on utilise beaucoup le modèle de l'éducation transformative, donc le fameux tête-cœur-main, que vous avez peut-être aussi développé dans vos pratiques d'animation de vos ateliers respectifs. Donc l'idée c'est de faire comprendre, parce que pour agir il faut comprendre, l'être humain a besoin de comprendre pour savoir ce qui se passe, donc comprendre pour ensuite être touché par le problème et avoir la volonté d'agir. Et nous, notre atelier, c'est de faire comprendre, mais surtout d'encourager les gens à l'action, de leur dire que chacun a son niveau. On n'a pas besoin de faire des grandes actions, hein. On n'a pas besoin d'être un président de la République pour agir, mais que chacun a son niveau dans sa ville, sa rue, son quartier, dans son école et son entreprise, peut agir à son niveau.
Bon, est-ce que ça se traduit dans les faits? Depuis 5 ans, vous avez, informé... un grand nombre de personnes. Est-ce que ça se traduit par des...
Alors, on est en train de lancer notre mesure d'impact, qui va être bientôt lancée. Tu parlais des prochains événements. Mmh. Donc, à l'instar de la fresque du climat qui a lancé une mesure d'impact avant nous et dont les résultats sont publiés, vous pouvez aller les voir. On va lancer, nous aussi, notre mesure d'impact social. Et pour la fête de la Terre, la fête de l'environnement bientôt, qui arrive dans les quelques prochains mois, on va lancer une grande campagne d'action avec d'autres partenaires. Mais on garde la surprise parce qu'on va la dévoiler bientôt sur nos réseaux sociaux.
Bon, bah vous me direz. Parce que
vous serez les premiers informés.
Ça m'intéresse beaucoup.
Non, au fond, toi, ce qui t'étonne, François, c'est qu'on peut à la fois apprendre et en même temps s'amuser. C'est ça la contradiction, peut-être.
Oui.
C'est vrai qu'au départ, l'enseignement, c'était quelque chose de sérieux.
Voilà, c'est ça. Donc, initialement, c'était présenté comme ça. Après, effectivement...
Mais après, apprendre par soi-même, parce qu'on a l'apprentissage descendant, hein, c'est l'apprentissage classique. Moi, je suis fille de prof, hein, prof de lettres des deux côtés, papa, maman. Mais l'apprentissage se fait de différentes manières. Et à une époque où les gens ne savaient pas lire et écrire, ben, on apprenait par des dessins, par des gestes, par des jeux. Et ce qui est important, en tout cas, on est peut-être l'une des seules fresques où quand vient le moment de l'émotion, donc le moment créativité et émotion, c'est le moment de l'atterrissage dans l'atelier, là où les gens digèrent et là où ils reprennent un petit peu le pouvoir, parce que sinon, ils sont... tenu par des cartes. Mais c'est le seul moment où les émotions qui sortent, alors bien sûr, il y a la peur, l'angoisse, la colère, mais il y a aussi l'amour et la joie, ce qui n'apparaît dans aucune autre fresque, parce que les gens, je mets le « re » entre guillemets, redécouvrent le vivant et tout ce que ça nous apporte, en fait.
Donc c'est presque un spectacle, une fresque de la biodiversité.
Alors, on n'en est pas encore au chant et à la danse,
peut-être. Non, mais c'est la prise
peut-être.
De conscience par aussi le
et puis
côté,
comprendre ensemble, déjà. Comprendre ensemble, c'est important pour peut-être aussi alléger un peu l'angoisse de ce que l'on découvre.
Oui, parce que je dirais qu'effectivement, c'est des sujets qui pourraient réellement faire peur, quoi.
Le jeu, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait pour passer un bon moment. Donc, finalement, ça permet d'adresser des sujets qui peuvent être anxiogènes. Et donc moi quand je fais un peu la pub de mon jeu, je dis moi je garantis que vous allez apprendre des choses, vous allez passer un bon moment et puis vous allez rire et il y a du suspense, donc finalement ça peut donner envie d'aller se coltiner des choses dont on n'a pas forcément envie d'entendre parler, quoi.
Bon et Brume, à Noël tu vas nous faire une séance de ton jeu alors?
Mais oui, alors mon seul souci, c'est qu'il est en format A0, donc il faut une grande table et on pourra le faire en famille, bien sûr.
D'accord, donc effectivement, du jeu, c'est... Oui, Queen, une dernière.
Le mystère du vivant est insondable. Je vais vous donner un seul exemple. C'est une base militaire qui se trouve au nord du Groenland. Et on a découvert à fur et à mesure, mais ça c'était les scientifiques... qui vraiment ne se rendait pas compte de ce qui était en train de se passer dans les années 60, c'est qu'au fond, la glace fonctionne comme un être vivant. Et toute l'Islandie a fonctionné là-dessus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont arrêté la base militaire et ils l'ont fermée. Et pourquoi ? Parce que ce n'était pas possible de construire des structures vraiment sérieuses,
solides. Oui, la glace,
solides.
C'est pas du sable, quoi.
Ils voulaient des tunnels pour 600 missiles intercontinentaux. Ben non, ça n'a pas pu marcher parce que justement, ils ont été obligés d'admettre
que ça se refermait.
que la glace, bah, c'était comme un être vivant. Ça pouvait rapetisser, ça pouvait s'agrandir, etc.
Oui, vous vouliez dire quelque chose.
Un dernier mot, et oui. Ça c'est un point commun entre nos ateliers, c'est que nos ateliers finissent toujours par une phase de passage à l'action, en tout cas de moment d'inspiration et de passage d'idées d'action.
Alors donc, pour finir, parce qu'il va falloir qu'on finisse, comme à chaque fois, c'est toujours là, on est toujours pris par le temps.
Le drame.
Le drame, oui, parce qu'on continuerait bien à parler des heures.
Oui.
Bon, il faut remercier nos animateurs, donc Armand, et puis
nos invités.
Et puis qui, comment il s'appelle le barbu ?
Quentin.
Ah, merci Quentin. Et puis nos invités, donc on va commencer par François, et puis François Dulac, du CEA, pour faire simple, de Climatic-Tac, dont on peut trouver le jeu en ligne assez facilement. Queen, alors de...
Vous écoutez Allegre FM 93.1.